Vous écoutez « On lit pour vous ».
Peuples autochtones, un lexique pour comprendre quel terme employer, un texte d'Inès Lombardo paru le 30 septembre 2024 dans Le Franco. Depuis les découvertes successives de centaines de tombes non identifiées d'enfants près d'anciens pensionnats autochtones qui ont mis les Canadiens face à un pan de leur histoire la plus sombre, des citoyens s'éduquent, discutent et participent à des marches en soutien aux peuples autochtones dont les droits les plus fondamentaux ont été bafoués. Franco-Presse s'est attaché à produire un lexique des termes de base à utiliser pour éviter que les mots ne blessent autant que les actes. Termes généraux. Peuples autochtones. Terme utilisé au paragraphe 35.1 de la loi constitutionnelle de 1982 qui reconnaît et confirme les droits existants, ancestraux ou issus de traités, des peuples autochtones. Selon le paragraphe 35.2, ce terme s'entend des Indiens, Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada. Premier peuple. Terme utilisé à l'occasion, à la place de peuples autochtones, ce terme ne revêt pas de signification juridique. Première Nation. Terme désignant tous les Indiens inscrits et non inscrits, ainsi que leur collectivité. Bien qu'il ne soit pas défini dans la loi sur les Indiens, il est maintenant utilisé dans la plupart des lois canadiennes, par exemple, loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Chef. Personne à la tête du gouvernement d'une Première Nation, en vertu du régime de la loi sur les Indiens. Le chef et ses conseillers, lesquels forment le conseil de bande, sont élus en fonction de divers systèmes électoraux. Ce modèle de gouvernance n'est pas traditionnel chez les Premières Nations. Traditionnellement, certaines Premières Nations avaient des structures de gouvernance héréditaires. Certaines d'entre elles ont maintenu leurs institutions traditionnelles parallèlement au régime de la loi sur les Indiens. Les rôles et les responsabilités contemporains des chefs héréditaires varient d'une communauté à l'autre. Inuit. Peuple circumpolaire, vivant principalement dans l'Inuit Nunangat, le territoire couvrant la terre, les glaces et les eaux du Nunavut, du Nunatsiavut, nord du Labrador, du Nunavik, nord du Québec, et de la région désignée des Inuvialuits, nord du Yukon et des territoires du Nord-Ouest. En Inuktitut, langue parlée par les Inuits qui habitent la partie orientale de l'Arctique canadien, Inuit signifie le peuple. Par conséquent, l'expression « peuple Inuit » est à éviter. En anglais, le mot « Inuk » est la forme singulière du mot « Inuit » et sert à désigner une seule personne. En français, on accorde « Inuit » en genre et en nombre. Autrefois, les Inuits étaient appelés « Esquimaux », un terme aujourd'hui considéré péjoratif. Il convient de noter que les Inuits et les Innus ne sont pas le même peuple. Les Innus forment une première nation habitant le nord-est du Québec et le sud du Labrador. Les Innus, parfois appelés Montagnais ou Naskapi, peuple autochtone vivant dans les régions subarctiques et boréales du Québec et du Labrador. Le recensement de 2016 dénombre 27 755 personnes se disant d'ascendance Innu montagnaise, tandis que 1085 autres s'identifient comme Naskapi. Source : Encyclopédie canadienne Innu montagnais Naskapi. Métis. L'identité métisse se définit de différentes façons. Les Métis peuvent être décrits comme les personnes dont les ancêtres habitaient l'Ouest et le Nord du Canada et ont reçu une terre ou un certificat de Métis. Autrement dit, il s'agit des descendants de la nation Métis historique. une définition plus large inclut les personnes d'ascendance mixte, autochtones et non-autochtones, qui s'identifient comme métisses. Dans le jugement Paulet de 2003, la Cour suprême du Canada a retenu trois facteurs principaux comme indicateurs de l'identité métisse: l'auto-identification, les liens ancestraux et l'acceptation par la communauté. Réserve. Une réserve est une terre réservée aux membres d'une Première Nation pour qu'ils l'occupent et l'utilisent. À ne pas confondre avec un territoire revendiqué, un terme qui englobe toutes les terres traditionnelles de la Première Nation en question, c'est-à-dire un territoire bien plus grand qu'une réserve. Source, Atlas des peuples autochtones du Canada. Survivante plutôt que victime. Dans son lexique terminologique, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ENFADA, a choisi d'utiliser le terme « survivante » pour désigner les personnes qui ont vécu la violence, reconnaissant que l'usage de ce terme ne constitue pas un appel lancé aux personnes afin qu'elles se dépêchent de guérir. Une variante respectueuse consiste à éviter complètement d'utiliser un terme et de simplement faire référence aux personnes qui ont vécu la violence ou à celles qui ont vécu la violence. Exception, si le terme « victime » est nécessaire dans le contexte du système de justice pénale. Terme particulier aux droits. Droits ancestraux, ensemble de droits protégés par la Constitution canadienne que détiennent les peuples autochtones en vertu de leur occupation et de leur utilisation historique du territoire en tant que société distincte, ayant leurs propres pratiques, coutumes et traditions. Titre ancestral. Droit collectif d'occupation et d'utilisation exclusive d'un territoire par un groupe autochtone. Droit issu des traités. Droit défini dans les traités historiques et modernes négociés entre la couronne et les peuples autochtones. Indien. Bien que désuet, le terme indien a un sens juridique précis selon la loi sur les Indiens et son utilisation peut être indiquée dans certaines circonstances. Il désigne généralement les Indiens inscrits, les Indiens non inscrits et les Indiens visés par un traité. Le terme Première Nation, qui n'a pas de sens juridique, est maintenant largement accepté en remplacement du terme « indien ». Loi sur les Indiens. Instaurée en 1876, la Loi sur les Indiens est le principal texte législatif sur lequel s'appuie le gouvernement fédéral pour administrer les réserves et les gouvernements locaux des Premières Nations. Elle énonce les obligations du gouvernement à l'égard des peuples des Premières Nations et définit le statut, la reconnaissance juridique de l'héritage d'un membre d'une Première Nation qui lui procure certains droits, comme celui de vivre dans une réserve. Cette loi demeure la première ressource définissant les interactions entre le gouvernement fédéral et les membres des Premières Nations du Canada. Source : Atlas des peuples autochtones du Canada. Les termes de ce lexique ont été réorganisés par thème. La source principale est le site de la colline parlementaire, Note de la colline, qui fait partie de la bibliothèque du Parlement canadien. D'autres sources ont été utilisées, auquel cas celles-ci sont indiquées à la fin de la définition du terme concerné. C'était « Peuples autochtones, un lexique pour comprendre quel terme employer », un texte d'Inès Lombardo, paru le 30 septembre 2024 dans Le Franco.
Bois Caïman au registre mondial des lieux d'histoire et de mémoire liés à l'esclavage et à la traite. Un texte de la rédaction paru le 10 octobre 2024 dans Alter Presse. La délégation permanente d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO, annonce comme un événement historique l'inscription officielle du site de Bois-Caïman au registre mondial des lieux d'histoire et de mémoire liés à l'esclavage et à la traite, dans un communiqué daté du mercredi 9 octobre 2024, dont a pris connaissance l'agence en ligne Alter Press. Bois-Caïman devient désormais le premier site haïtien à rejoindre ce registre mondial. Au cours de la célébration, le mercredi 9 octobre 2024, du 30e anniversaire du programme des routes des personnes mises en esclavage de l'UNESCO, rappelle le communiqué. Initié par Haïti et le Bénin en 1994, ce programme a été créé par l'UNESCO pour enrayer les injustices économiques et sociales, conséquences de l'esclavage profondément enraciné. La candidature de Bois-Caïman a été soumise en janvier 2024 par Haïti en vue de valoriser le patrimoine national et célébrer la mémoire collective pour les années 2023 et 2024. Cette inscription est le fruit d'efforts conjoints entre la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, la chaire UNESCO en histoire et patrimoine de l'Université d'État d'Haïti, UEH, et le Comité scientifique haïtien de la route des personnes mises en esclavage. Elle s'inscrit dans le cadre du 30e anniversaire du programme de la route des personnes mises en esclavage de l'UNESCO. Le site de Bois-Caïman, théâtre d'une cérémonie sociopolitique en août 1791, représente le symbole de la lutte pour l'abolition de l'esclavage et l'indépendance d'Haïti, considère le communiqué. Il incarne les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de dignité, en vertu desquelles l'UNESCO a désigné le 23 août comme Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, poursuit-il. Classé patrimoine touristique national depuis 1982, et déclaré d'utilité publique en 1995, Bois-Caïman constitue également un symbole universel d'émancipation, de résistance et de quête d'autodétermination. La délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO souligne combien l'inscription du site de Bois-Caïman au registre des lieux d'histoire et de mémoire liés à l'esclavage et à la traite renforce son rôle en tant que catalyseur d'un dialogue global sur l'histoire de l'esclavage et les luttes pour la liberté. En septembre 2023, le site Bois-Caïman a été borné quelques semaines avant la commémoration du 217e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines, le mardi 17 octobre 2023. Cette initiative ouvre ainsi la voie à des projets de valorisation et de préservation, incluant la construction d'un musée de l'esclavage, fait savoir le communiqué. C'était Bois-Caïman au registre mondial des lieux d'histoire et de mémoire liés à l'esclavage et à la traite. Un texte de la rédaction paru le 10 octobre 2024 dans Alter Press.
Les risques de l'abstraction. Un texte de Véronique Grenier, paru le 20 novembre 2024 dans la presse. Depuis deux semaines, je n'ai que très peu écouté la radio ou lu les journaux. Le résultat des élections américaines m'a sonné. Ce que je ressens s'apparente à un lendemain de veille qui s'étire. Nausée, tête embrumée, vertige. Je n'arrête pas de penser à toutes ces personnes qui vont souffrir, à toutes celles qui seront davantage minorisées, appauvries, intimidées, violentées par un discours ambiant qui le permettra et l'encouragera. Par des droits qui seront peut-être retirés, moins bien garantis. Au royaume de la liberté avec un grand L, on ne semble pas toujours s'intéresser à ce qui permet l'exercice de la liberté aux conditions même de sa possibilité. Les droits, quand on y pense, sont une abstraction. On comprend qu'ils signifient ce que je peux faire, avec un petit plus qui a à voir avec une autorisation formelle et une forme de protection. On nous en parle dans les cours d'histoire au secondaire. Nous avons une vague idée de ce que contiennent la Charte des droits et libertés et celle des droits de l'homme. Puis après, je présume que nous y pensons lorsque le mot apparaît dans l'actualité. Lorsqu'on est protégé, en sécurité, on n'a pas à y réfléchir ni à s'en préoccuper. Dans le quotidien des choses, c'est donc un peu difficile de saisir leur importance profonde et ce qu'ils permettent, à moins de vivre la détresse et l'inquiétude qui s'installent quand ils sont bafoués. Si on ajoute à cela le fait que nous avons la forte impression que ce qu'on connaît et ce qu'on vit ont toujours été ainsi et le sont toujours, il peut être facile de baisser sa garde et d'être moins vigilant vis-à-vis de ce qui pourrait menacer certaines de nos libertés, certains de nos droits. Long préambule pour en arriver à aborder une situation qui se passe dans les coulisses, qui ne crée pas trop de vagues non plus, ce sont des nouvelles parmi d'autres, qui glissent sous notre pouce. Certaines personnes tentent de sonner l'alarme, mais j'ai l'impression que ça n'ébranle pas autant qu'il le faudrait. Peut-être est-ce le fait que ce soit présenté comme des décisions économiques et politiques. Peut-être est-ce difficile de rendre pleinement ce qu'elles impliquent. Peut-être sommes-nous là de nous en faire aussi usés. Mais il ne faut pas oublier les mots de Michel Chartrand. Si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est elle qui s'occupe de toi. J'arrive où je voulais arriver. À l'été 2024, plusieurs établissements gouvernementaux, cégep, université et Sius notamment, ont reçu une lettre qui les informait de coupes importantes dans les budgets liés aux infrastructures. Et fin octobre 2024, le gouvernement a annoncé un gel des embauches dans la fonction publique, effectif à partir du 1er novembre 2024. Coupes dans les infrastructures et gel des embauches, ce sont des mots qui rendent difficilement justice à ce qui va se passer sur le plancher des vaches, dans la vie de tous les jours des personnes qui travaillent dans ces établissements et de celles qui bénéficient de ces lieux. Des personnes qui vont à l'école au Québec et celles qui ont besoin de soins de santé, ce ne sont pas que quelques personnes. Concrètement, ça implique entre autres ceci. Des bibliothèques de cégep qui n'achèteront plus de livres avant le 31 mars 2025. Des toilettes qui ne pourraient pas être réparées si elles brisent. Que la solution à un plafond qui coule soit de mettre une chaudière en dessous. Qu'une personne qui part en congé de maladie ou de grossesse ne puisse être remplacée. Ce qui peut sans doute être anticipé, c'est un dépérissement des infrastructures, des congés de maladie pour épuisement, des personnes qui n'aimeront plus faire leur travail, une perte d'expertise si des gens démissionnent, des erreurs, des tensions, des délais. Ces lieux, ce sont ceux dans lesquels nos enfants apprennent et dans lesquels les personnes malades, qui peuvent être vous, moi, nos proches, guérissent. Si j'avais comme projet de fragiliser les institutions publiques, je crois que c'est la stratégie que j'utiliserais. Laisser les choses dépérir pour en venir à dire que le système ne fonctionne plus et qu'il faut donc se tourner davantage vers le privé. Les coupes silencieuses auront alors été oubliées. C'est peut-être aussi une manière de préparer les prochaines élections. Étouffer les gens, puis leur redonner de l'air plus tard à grands coups de millions. Sauver la situation. On aura alors oublié les Kings de Los Angeles, le panier bleu Nordvolt. Pour ces choix et ces décisions, nous devrions demander plus de comptes, plus d'explications, parce que ces infrastructures, elles nous appartiennent collectivement. Ces milieux qui seront appauvris, ces personnes qui en souffriront, nous les connaissons, les côtoyons. Revendiquer la saine gestion ne suffit pas, et c'est même plus ou moins honnête. dans notre esprit, ce qui est sain, c'est ce qui est jugé bon, préférable. En alimentation, la notion fait référence à une nourriture qui nous garde en santé. Une relation saine est celle dans laquelle on peut s'épanouir et se sentir en sécurité. Un corps sain fonctionne au mieux de ses capacités. Est sain ce dont on a besoin pour s'épanouir? Ce n'est pas anodin qu'on l'utilise à côté du mot « gestion » en espérant que personne ne verra le subterfuge. La saine gestion est purement comptable, des colonnes de chiffres. En son nom, ce sont les conditions d'exercice de nos libertés et de nos droits qui sont atteintes, de même que notre prospérité générale, et ce, par des lettres envoyées en plein été. Une poignée de personnes détermine le présent et l'avenir de millions d'autres sans considération pour la vie qui grouille derrière les chiffres. Ce serait bien que nous cessions d'être des abstractions pour celles et ceux qui prennent ces décisions. C'était « Les risques de l'abstraction », un texte de Véronique Grenier, paru le 20 novembre 2024 dans La Presse.
Cinq activités physiques pour vieillir en santé. Un texte de La Presse, paru le 5 novembre 2024 dans La Presse. De nombreuses études scientifiques attestent les bienfaits de l'exercice physique, même à un âge avancé. La pratique régulière d'activités sportives contribue à une bonne santé, tant sur le plan physique que mental. Elle permet aussi de prolonger son autonomie et sa qualité de vie le plus longtemps possible. Voici cinq sports à découvrir ou à redécouvrir dont les bienfaits sont particulièrement intéressant pour les personnes aînées. Le Pilates. Sans impact pour les articulations, cette forme de gymnastique douce qui combine respiration et exercice physique convient parfaitement aux personnes âgées. Une séance typique de Pilates consiste à enchaîner des exercices effectués au sol, sur une chaise ou à l'aide d'appareils spéciaux qui font travailler tour à tour les différents muscles du corps en insistant sur les abdominaux et les dorsaux. La pratique régulière de cette activité permet, entre autres, d'améliorer la force musculaire, la souplesse articulaire, la coordination et la posture. Elle se révèle particulièrement intéressante pour les personnes qui ont des limitations physiques ou des besoins de rééducation. L'aquaforme. Cette activité sportive en piscine est excellente pour garder la forme, peu importe son âge et sa condition physique. Comme le corps est immergé dans l'eau, il y a moins de pression exercée sur les articulations, ce qui est idéal pour les personnes aînées, même pour ceux et celles en surpoids ou souffrant de douleurs articulaires. Cette forme de conditionnement physique se pratique en groupe et comprend des exercices qui permettent d'améliorer à la fois ses capacités cardiovasculaires et musculaires. Par ailleurs, les participants et participantes n'ont généralement pas besoin de savoir nager, puisque les cours se donnent dans la partie peu profonde ou à l'aide d'objets flottants. La marche nordique. Cette marche sportive convient à pratiquement tout le monde puisqu'elle peut être pratiquée à différents niveaux d'intensité et qu'elle présente l'avantage de mettre moins de stress sur les articulations grâce au bâton. De plus, comme cette activité met à contribution autant le haut que le bas du corps, elle fait travailler tous les principaux groupes musculaires, ce qui en fait un exercice plus complet que la marche classique. Ses bienfaits sont nombreux. Renforcement du système cardiovasculaire, tonification des muscles, fortification des os, amélioration de l'équilibre et de la coordination. S'ajoutent à cela les bienfaits psychologiques d'un sport pratiqué en plein air. Le tai chi. Dérivé des arts martiaux traditionnels, cette discipline corporelle d'origine chinoise s'avère parfaite pour les personnes aînées en raison de son intensité légère et de son faible impact sur les articulations. Elle consiste en une série de grands mouvements lents et fluides qui se succèdent dans une sorte de chorégraphie. Le tai chi met aussi l'accent sur la coordination entre la respiration et les mouvements. Cette activité sportive, qui sollicite muscles et tendons, permet d'améliorer l'équilibre, la coordination et la souplesse, en plus de renforcer le système musculo-squelettique. Certaines études scientifiques ont d'ailleurs démontré qu'elle contribue à réduire le risque de chute chez les personnes âgées. La danse sociale. Offrant de nombreux bienfaits, peu importe l'âge, cette activité à ne pas sous-estimer représente un excellent moyen de rester en forme en vieillissant. Danser est bénéfique, notamment pour la mobilité, la coordination et l'équilibre, ce qui constitue un avantage important pour prévenir les chutes, un enjeu qui touche particulièrement les personnes âgées. La pratique de la danse améliore non seulement le tonus musculaire et le système cardiovasculaire, mais elle stimule aussi les fonctions cognitives, car elle nécessite l'apprentissage de chorégraphies. Elle offre également l'occasion de socialiser, ce qui est bon pour le moral. Salsa, mambo, swing, tango, valse, ce ne sont pas les options qui manquent. Conseils pratiques. Choisissez des activités sportives adaptées à votre condition physique. Participez à des activités qui vous plaisent, car cela vous aidera à persévérer. Si c'est possible, pratiquez votre exercice de manière encadrée en vous inscrivant, par exemple, à des cours supervisés. Quel que soit le sport pratiqué, allez-y progressivement pour éviter les blessures. N'hésitez pas à consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé, comme un ou une kinésiologue, pour vous aider à trouver les activités sportives qui vous conviennent. C'était 5 activités physiques pour vieillir en santé. Un texte de La Presse paru le 5 novembre 2024 dans La Presse.